Je présente donc en fait bah là Lou Marin est quelqu'un qui vient du CIRA de Marseille dans le cadre d'une tournée bretonne organisée par différents groupes et organisations anarchistes. Donc c'est le Centre international de recherche sur l'anarchisme de Marseille. Et voilà, donc bah Lou vient nous parler aujourd'hui de du livre qui comporte les textes qu'il a rassemblés autour de des rapports entre Albert Camus et les libertaires. Voilà, et donc on a donc Lou va pouvoir nous présenter un peu ça, et puis ce que je propose, c'est qu'ensuite on fasse des prises de parole, enfin que de toute façon dans le qu'on est, ça devrait pas poser de problème de discuter à bâton non plus, quoi. Voilà, ça. Comment tu veux gérer la chose?
Je pense que je vais parler 31 minutes, effectivement, et puis voir au départ. Merci pour l'invitation, c'est gentil. Comme vous entendez déjà dans mon accent, je suis pas français, je suis grandi en Allemagne. J'ai milité dans le mouvement écologique en Allemagne et Québec, notamment dans le mouvement contre les centrales nucléaires. Jusqu'à 2001, et puis je m'en suis allé à Marseille. Mon intérêt, mon motivation de faire maintenant plus de 20 années de recherche sur Camus dans le milieu libertaire, ça vient aussi un peu de ma vie militante dans ce courant. On a le courant, je pense, encore très connu, peu connu en France, mais un courant anarchiste non violent avec le seul mensuel anarchiste qui existe en Allemagne, qui s'appelle pas pour sa révolution, c'est difficile à traduire, révolution reste une verbe, mais le sous-titre est plus clair, c'est pour une société sans domination ni violence. Et bon, en effet, c'est pas seulement au niveau culturel ou c'est pas seulement journal. C'est un réseau des groupes d'action directe non violente qui étaient liés à l'issue de mouvements étudiants, par exemple le journal né dans 1972. Et ça, c'était aussi une époque où on se séparait des différents courants à l'issue de ce mouvement, où il y avait d'un côté la naissance des groupes armés aussi. Entre autres la groupe armée Fraction Rouge. De l'autre côté, des petites groupuscules, des partis communistes, marxistes, léninistes, maoïstes, qui se sont toutes défendues, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Mais notre courant où le mouvement écologiste anti-nucléaire qui pouvait fréquemment mobiliser plusieurs reprises des centaines de milliers de militants en des actions, des occupations des sites nucléaires et qui a fait, on peut dire, la plus forte mouvement émancipatrice et puis le mouvement étudiant en Allemagne qui a aussi un peu au moins arrêté le plan de construction des plantes nucléaires où ils ont planifié dès le début des années 70 350 de la zone centrale, bon, ils ne sont pas qui jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand débat, bon, et avec la grande puissance de Sarkozy et l'industrie nucléaire, maintenant, ça fait beaucoup de pression de renouveler avec le nucléaire. Mais c'est encore une activité de ces groupes d'action directe non violente régulièrement chaque année dans des centres de déchets nucléaires entre la Hague et Bourg-les-Bains. Alors, c'est en raison des groupes l'action directe de l'échelle s'impose en juste position. Bon, on fait ce mouvement-là, en Afrique de l'Europe, ailleurs, il y avait aussi, on peut dire, un prédécesseur en France de cette groupe au début des années 60. Il y avait une petite revue qui s'appelait Anarchisme et non-violence, qui existait de 65 jusqu'à 74, dont je connais depuis que je suis ici en France aussi les fondateurs, André Bernard et Anita Bernard et les autres. Et moi, je suis en contact régulière avec eux. Et on a eu aussi beaucoup de contacts à l'époque avec les gens qui nous étaient en Alsace notamment. Alors il y avait un échange permanent. Et ce courant en France s'est un peu arrêté avec la terminaison de cette journal et le mouvement écologiste anti-nucléaire a reçu un soutien. On peut dire en 1977 avec Marie-Lille, mais en Allemagne, il y avait une continuité jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça c'est un peu le milieu dont j'ai milité, et ce milieu-là a eu beaucoup des traditions, des mouvements sociaux, des personnages historiques qui ont un peu donner et participer à le stock des idées de l'anarchisme non-violent où on a donné un peu une analyse sur l'expérience. Il y en a beaucoup de traditions, dont Albert Camus, dès le début de ce courant, était une de ses expériences, une de ses personnages dont on s'appuyait sur sa théorie. Ça se fait notamment sur son œuvre phare philosophique, c'est L'homme révolté. Il y en a beaucoup de militants qui ont fondé ce mouvement, qui ont lu L'homme révolté et qui ont un peu se laissé inspirer dans leur façon de révolte par L'homme révolté. Ça, c'était toujours un courant important. Quand on cherchait, notamment dans les années 70, des arguments pour une autre courant de se distinguer des autres courants. Parce que, par exemple, les groupes armés et aussi les groupes maoïstes, communistes, ils ont eu une façon d'argumenter au sein de mouvements et ensemble, et cette construction ou cette façon d'argumenter, c'était... Il est absolument nécessaire dans certaines conditions sociales données de sacrifier un certain nombre des gens d'aujourd'hui pour un but d'une société libérale disant soit communiste, soit prolétaire, soit une société d'avenir sans domination même. Pour cette société d'avenir, il fallait sacrifier un certain nombre de gens pour arracher cette lutte sociale à ce vite que possible. Et le pensée d'Albert Camus dans L'homme révolté nous avons servi de faire une contre-argumentation à cette époque-là. Notamment de dire avec Albert Camus que cette butte d'avenir, c'est une pensée, une philosophie, une idéologie de l'histoire qui dit toujours que cette butte de l'avenir justifie tout ce qu'on revendiquait sur le présent. Mais Albert Camus l'a bien montré selon les histoires de la révolution bourgeoise française et aussi l'histoire de la révolution russe bolchevique, que tout d'abord cette société de l'avenir n'est pas sûre. On ne sait pas quand de ça revient et si on peut vraiment raccourcir le voir avec la nécessité de tuer des gens d'aujourd'hui. Et une deuxième argumentation, c'était que on ne sait jamais exactement que il fallait absolument tuer cette personne-là et cette personne-là qu'on a rencontré pour tuer aujourd'hui pour arriver dans un telle société. Alors ça, c'était un peu l'argumentaire au début de ces courants, et tout ça servirait vraiment à des familles et son père. Enfin. Bon, pour l'âge, dans les années 80, dans un milieu comme ça, j'ai commencé à faire des recherches sur Albert Camus. Il était connu plutôt comme personnage littéraire en Allemagne. Et j'ai découvert, dans plus de 20 années de recherche maintenant dans plusieurs bibliothèques aussi, fouiller des petits journaux libertaires, on a trouvé beaucoup des articles dans des petits journaux qu'il a écrits, même après qu'il est devenu célèbre. Ça n'a changé rien quand il a reçu le prix Nobel en 1957. Il a assez concentré, participé et contribué à des petites revues avec un tirage de 1000 exemplaires. Et là, j'étais un peu surpris sur l'ampleur, et je me mis à la tâche de faire plus de connaissances de cet côté-là, parce que je pense aussi que c'est une œuvre littéraire, et c'est sûr que ça sera mieux à comprendre quand on fait aussi quelque chose sur sa santé politique et sur l'attachement qu'il a eu pour le mouvement libertaire. Bon, ça, ce sont un peu les motivations, l'origine, pourquoi je m'ai intéressé à Albert Camus et faire ce travail. Et maintenant, pour un peu parler sur le livre, vous pouvez lire un peu cette histoire et mon approche un peu de point de vue de cette courant anarchisme violente dans l'introduction du livre, qui sont quand même 70 pages. Alors là, j'ai un peu parlé de cette approche ou aussi de cette interprétation de l'œuvre de Camus qu'on a, parce que Camus ne se revendiquait pas complètement d'être non-violent, mais nous avons tiré ce que nous intéressait, et c'est bien sûr une interprétation, on peut avoir une autre interprétation de Camus. Bon, ça c'est un peu l'introduction du livre. La deuxième partie, ça c'est le vrai contenu, ce sont tout, j'espère que ce sont tout. Bon, mais jusqu'au présent, j'ai pas trouvé un autre article, et on m'a pas montré un autre article de Camus dans les journaux libertaires. Bon, il fallait aussi un peu décider de quels journaux on décidait, je vais en parler. Et ça c'était le premier critère pour prendre dans le livre les articles d'Albert Camus dans la presse libertaire. Mais on a aussi publié des contributions des libertaires, c'est pour ça qu'il s'appelle Albert Camus les libertaires, parce que souvent ce sont des débats. Alors, soit les libertaires dans la presse libertaire, ils ont répondu à un article d'Albert Camus, ou l'inverse, Albert Camus a répondu à un article d'un libertaire paru dans la presse libertaire. C'est une autre, d'ailleurs, bien qu'il était aussi un vrai un lecteur de cette presse. Parce qu'il était, c'était souvent le cas qu'il a répondu à un débat ou un compte rendu dans de ses livres ou choses comme ça. Alors, si c'est un débat, tous les articles de ce débat se trouvent dans ces livres aussi. Et il y a aussi une troisième partie des articles qui sont pris dedans. Ça, c'est un peu spécial pour éclaircir les présuppositions très peu connus ou même un peu mal connus et un peu dénoncé par Camus sur certaines questions qui s'expliquent et qui s'expliquent mieux quand on prend en compte les journaux libertaires qui ont fait une prise de position un peu pareille que Camus. Parce que notamment quelques articles sur la guerre d'Algérie où on trouve des articles et prises de position de Camus à côté des prises de position des militants de syndicalisme révolutionnaire qui sont dans le même sens. Et bon, alors Camus était décrié d'être colonialiste de bonne volonté, et là je vais en parler, on va découvrir un peu le sens inverse. Et aussi, il y a quelques articles dans ce livre de défense des libertaires par rapport à Camus, par rapport à des reproches qu'il a reçus du côté des intellectuels autour de Sartre et autour de Parti communiste quant à l'apparition de l'homme révolté ou de cette prise de position sur la guerre d'Algérie, parce qu'ils ont été les libertaires qui ont défendu aussi Camus et se mis à côté aussi de Camus. Ils ont eu, par exemple, là il y en a des articles de personnages de grande famille qui ont défendu Camus, par exemple René Char ou des autres. Alors ça, ce sont un peu les trois genres d'articles que vous trouvez dans le livre. Et le dernier partie du livre, c'est un long texte fraîchement écrit par Freddy Gomez. Freddy Gomez, c'est le fils du rédacteur Fernandez Gomez Telao de Solidaridad Obrera en Espagne dans les années 50 de CNT et FAI. Là, Freddy Gomez parle beaucoup de sa mère, qui était en forte amitié avec Albert Camus, et raconte toutes les campagnes de soutien que Camus a menées pour les libertaires espagnols, soit encore emprisonnés ou menacés de l'exécution en Espagne de Franco, ou en URSS. Ça, c'est aussi une histoire très connue. Beaucoup des libertaires espagnols se sont enfuis en 1927 et après la Deuxième Guerre mondiale, Staline l'a mis dans un camp, on peut dire, c'était le camp des Espagnols, le camp Caragamba. Et Staline disait que soit vous restez à l'URSS, ça veut dire dans ce camp, ou soit vous retournez en Espagne, mais ça veut dire en Espagne de Franco. Il y avait une campagne en 48-49 avec Camus, des militants de syndicalisme révolutionnaire et des libertaires comme Rich Royer qui ont fait une campagne pour le choix libre qui s'est défini en URSS pour s'en aller où il voulait. C'était d'ailleurs une campagne qui n'a pas abouti. D'ailleurs, d'autres campagnes de Camus en soutien des libertaires espagnols ont eu du succès et ils pouvaient soit accueillir en France des évadés ou soit même obtenir avec une campagne de grande public la libération de certains militants, par exemple. Enrique Nadal, qui était dans les Girolles, Francis, et qui a été condamné à mort, et ils ont été par de ces campagnes pour libérer un tel personnage. Sur ces campagnes-là, je veux un peu dire deux parties dans le livre, parce que ça montre bien un peu le caractère et la sorte de soutien de Camus qu'il a eu pour cette famille libertaire, et aussi comment ils se sentaient proches, et aussi pourquoi c'est vraiment important aujourd'hui de mettre de lumière sur cette organisation. Alors je vais lire une citation de Fernando Gomez Pinaez, Camus avait une bonne connaissance de l'histoire et de la littérature espagnole. De cette proximité existentielle et intellectuelle avec l'Espagne qui explique sans doute qu'il est temps fait pour nous. En vérité, il nous aida comme on aime les membres d'une famille dans le besoin, sans compter et de diverses façons, de la plus visible à la plus discrète. Sur les tribunes, par l'écrit, mais aussi en nous ouvrant son carnet d'adresses, en nous produisant des conseils, en nous cédant des droits sur ses textes, en nous soutenant financièrement quand manquait le nerf de la guerre. Camus était de ce genre d'homme rare qui ne tirait aucune publicité ou gloriole de ses gestes de solidarité. Il insistait au contraire pour qu'on ne sache pas qu'il était à l'origine de l'envoi de telle et telle quantité d'argent pour aider un compagnon emprisonné ou sa famille. Brassens agissait de même, sans rien demander non plus en retour, sauf le silence. Dans un monde de matou-vu où la bonne conscience a toujours rempli, ce genre de comportement mérite d'être signalé et notamment d'être mémorisé aujourd'hui. Et je veux maintenant lire encore un autre petit passage de Camus lui-même où il parle sur l'Espagne. Ça, c'était paru dans un petit journal dont je vais encore parler, Témoin, en 1954. Et ça, c'est la première partie d'un article où il rassemblait deux discours qu'il a tenus. L'article s'appelle « Calendrier de la liberté ». Et le premier article, c'est sur l'Espagne. Il s'appelle « 19 juillet 1936 ». Alors, un date de calendrier de la liberté pour lui. Et ça, c'est un discours qu'il a tenu à Paris à l'occasion du 15e anniversaire de la révolution espagnole. Et l'Europe, peut-être, dont l'Espagne est solidaire, n'est si misérable que parce qu'elle est, elle s'est détournée tout entière et jusque dans sa pensée révolutionnaire d'une source de vie généreuse, d'une pensée où la justice et la liberté se rencontraient dans une unité charnelle, également éloignée des philosophies bourgeoises et du socialisme césarien. Les peuples d'Espagne, d'Italie et de France gardent le secret de cette pensée et le garderont encore pour qu'il serve au moment de la Renaissance. Alors le 19 juillet 1936 sera aussi l'une des dates de la deuxième révolution du siècle, celle qui prend sa source dans la commune de Paris, qui chemine toujours sous les apparences de la défaite, mais qui n'a pas encore fini de secouer le monde, et qui, pour finir, portera l'homme plus loin que n'a pu le faire la révolution de 17. Nourri par l'Espagne et, en général, par le génie libertaire, et nous rendra un jour une Espagne et une Europe, et avec elle de nouvelles tâches et des combats enfin à ciel ouvert. Ceci du moins fait notre espoir et nos raisons de lutter. Alors là, il parle du génie libertaire. Alors Camus, on a souvent reproché de ne pas afficher publiquement son attachement. Il ne s'appelait pas comme libertaire ou anarchiste, mais dans ces articles-là, il y en a plusieurs lieux, dont ici, où il parle même du génie libertaire, où il y a d'autres articles publiés, où il utilise le nous, les libertaires. Où il dit, par exemple, qu'il a écrit explicitement, dans un article, qu'il a écrit l'homme révolté pour faire avancer le pensée libertaire. Alors ça, c'est un témoignage plus explicite de son attachement au courant libertaire. Et ce qui est intéressant maintenant dans cette revue-là, la deuxième partie de cet article, « Calendrier de la liberté », s'appelle « 17 juin 1953. Et ça, c'est aussi un discours à l'occasion de la révolte des ouvriers à Berlin-Est contre le pouvoir communiste. Témoigne qu'il voulait associer dans le calendrier de la liberté alors la révolte en Espagne et les révoltes en Europe de l'Est. Il était absolument rare à l'époque pour un intellectuel de faire ça. Et bon, ça montre bien sa volonté aussi affichée dans ses articles de sortir de la dichotomie de guerre froide. Ça, c'était aussi pour notre courant très, très intéressant de lire Camus en tant que quelqu'un qui était un penseur contemporain. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà tiré les conséquences des grandes catastrophes du XXe siècle. Toujours des gens, quand tu n'es pas dans mon camp, tu es objectivement, comme on a dit, dans le camp des autres. Et cette dichotomie, Camille a toujours refusé, et c'est comme ça qu'on a eu un intérêt de le dire. Bon, alors, je vais un peu parler des courants littéraires dont on a donné des articles de Camus dans ce livre. La première partie des articles de Camus paraissait dans, on peut dire, le courant des objecteurs de conscience, notamment avec une personnage phare de l'anarchisme français, Louis Lecointre. Ça, c'est une amitié forte depuis, on peut dire, 48, 49, de Camus avec Louis Lecointre. En fait, son premier article qui est paru dans un journal libertaire, c'est Dialogue pour le Dialogue, en 49, dans un journal de Louis Lecointre, Défense de l'Homme, et notamment, dans la fin des années 50, Camus a renoué ses liens avec Louis Lecointre dès le début d'une nouvelle revue que Lecointre a lancée en janvier 58. Ça s'appelait Liberté. Et Liberté a déclenché une campagne et était entièrement consacrée à revendiquer publiquement une statue pour les objecteurs de conscience. En 1858, c'était en pleine guerre d'Algérie. Bon, et tout le monde savait que quand on revendique publiquement un statut pour les objecteurs de conscience, que c'était aussi un appel pour l'objection de conscience pour ceux qui ont été envoyés en Algérie. Alors, là, par exemple, Albert Camus a rédigé le texte pour revendiquer cette statue. Et ce texte de Camus était approuvé par le comité de rédaction de Liberté, mais aussi tant d'autres petits journaux, par exemple, à contre-courant, qui était fait par un syndicaliste, un correcteur, Louvé ou des autres groupes anti-militaristes. Pacifiste, et ça a aussi soutenu les actions qui se sont déroulées au sein d'un groupe dont appartenait par exemple à l'époque André Bernard, Action civique non violente, qui ont fait des actions directes non violentes en soutien des objecteurs de conscience. Alors ça, c'était le déclenchement d'un mouvement qui était en pleine croissance, on peut dire, quand, par exemple, le journal de Sartre, Temps moderne, a vraiment pris une position en faveur des réfractaires et des objecteurs de conscience, avec le fameux manifeste des 121, mais ça, c'était en septembre 1960. Et l'activité de Camus de la date de début 58. c'est ce qui est marrant et injuste envers sa vie, c'est que du camp de Sartre, on a dit plus tard, et déjà en 1960, l'année 58, c'était l'année du silence de Camus. Alors on a rapproché à Camus de ne rien faire par rapport à la guerre d'Algérie, de rester silent. Alors, en réalité, qu'il était deux années à l'origine d'un déclenchement, d'un mouvement dont plus tard, Sartre s'est aussi participé. Ça, c'est seulement une des beaucoup des injustes, des jugements injustes envers Camus, dont éclaircit un peu les articles qu'on pourrait lire en soutien des objecteurs de conscience. Bon, ça c'est un peu la première partie de lui. Deuxième partie, ce sont les articles que Camus a publiés, on peut dire, dans les journaux de l'anarchisme classique, on peut dire, dans les journaux Le Libertaire et Le Monde Libertaire. C'était au début des années 50 et puis pendant les années 50. En entretien, il y avait une scission entre la rédaction de Le Libertaire avec Georges Fontenay, qui a s'en pris un peu de cette rédaction fondée plus tard, la Fédération des communistes libertaires, qui se sont éloignés de Camus. Tandis que au début, au temps de parution de l'homme révolté, par exemple même Georges Fontenay, avec quelques critiques, mais en tout cas, il a publié un compte-rendu, une critique très favorable envers l'homme révolté. Et bon, mais, puis après, c'était plutôt le courant de Maurice Joyeux et dans les colonnes de Nouvel Journal, Le Monde Libertaire, où il paraissent encore plus des articles d'Albert Camus. Alors, il avait d'ailleurs une forte amitié avec certains personnages de rédaction de Le Monde Libertaire. Par exemple, Camus apparaît devant le tribunal pour Maurice Blaisan, qui était à l'époque à la comité de rédaction de Monde Libertaire, en le soutenant, en témoignant pour lui, parce qu'il était devant le tribunal pour une campagne des affiches contre le colonialisme en Indochine. Et Camus paru devant le tribunal pour témoigner en faveur de Maurice Blaisan. Et il y avait depuis aussi déjà des campagnes en faveur des libertaires espagnols, 48-49, une connaissance de Camus pour Maurice Joyeux, et ça se régnait régulièrement dans les années 50. Et Maurice Joyeux à Paris, il a eu une petite librairie, et c'était fréquent que Camus passait dans cette librairie, s'échanger avec Maurice Joyeux. Il en témoigne même dans un documentaire où on peut entendre Maurice Joyeux. Et après la mort de Camus, par exemple, Maurice Joyeux a même sorti une disque avec un discours de lui, de son interprétation et son soutien de l'homme révolté. Bon, ça c'est la deuxième partie des articles que je dis ici. La troisième partie, c'est le contact de Camus qui est avec une revue qui est parue entre 1953 et 1963 en Suisse, qui s'appelait Témoin. Et ça c'est fondé par Jean-Constantin. Jean-Constantin était un réfractaire, objecteur de conscience de la Première Guerre mondiale, condamné pour 10 ans de prison en France. Il s'enfuyait, ne pouvait pas revenir et s'installer en Suisse. Et en Zurich, même en Suisse allemande, il a lancé cette journal dont la diffusion en France c'était fait par Robert Croix, Et dans le comité de rédaction, il y avait aussi Rivette, Maître Jean, ou André Cousomo, alors des personnages par Libertaire. C'est ce qui est intéressant, que dans cette revue-là, c'était la seule revue dont Camus figurait même comme membre du comité de rédaction et comme correspondant régulier. Et c'est à cette revue-là qu'il a donné la plupart de ses articles pour la presse universitaire. Et il a assisté aussi à Paris à des rencontres organisées soit par Robert Poix ou par Rivette Maître Jean, à différents lieux à Paris. Il a assisté à 6 ou 8 réunions de comité de rédaction. Ce qui est aussi remarquable ici, qu'il retrouve Rivette Maître Jean dans cette comité de rédaction, dans cette revue, dans les années 50, alors que Rivette Maître Jean, tout d'abord, était le personnage phare de l'anarchisme français avant la Première Guerre mondiale, avec Victor Serge, il a rédigé le journal L'Anarchie. Mais ce qui est aussi important pour Camus, c'est qu'il connaissait déjà Rivette Maître Jean dès son début de séjour en France, qui était en 1939. Il était arrivé à Paris en 1939 pour son premier boulot à Paris. Et ça, c'était, il était un peu fervent de la rédaction d'un quotidien parisien. Et là, au Marbre, il y avait des correcteurs, souvent libertaires ou anarcho-syndicalistes, et une correctrice à l'époque était Rivette Maître Jean. Et ils ont fait ensemble la fuite de Paris, quand les nazis ont envahi Paris et les foules, avec toute l'équipe de Paris-Soir. Alors, notamment, Rivette Maître Jean et Camus, quand ils étaient ensemble, ont fondé une amitié pendant notamment les 3 mois de l'Exode. Ils sont enfuyés de Paris à Clermont-Ferrand vers Lyon, où ils se sont arrêtés, et plus tard, Camus a fondé aussi, ou a pris la rédaction de la revue clandestine Combat pour la Résistance. Et pendant ces 3 mois de l'Exode, il y avait un échange intense entre Rivette Maître Jean et Camus. Et on peut dire que Rivette Maître Jean a inauguré Camus dans le pensée libertaire. Il y a quelques... On peut même trouver quelques petites inspirations auparavant, mais... vraiment une connaissance sur les traditions, la pensée, le milieu libertaire, on peut dire, ça c'était Rivette Maître Jean qui l'a donné à Camus pendant ce temps-là. Bon, alors Camus a retrouvé cet ami Rivette Maître Jean dans ses réunions autour de témoins. Et ce qui est aussi intéressant, par exemple, Camus a donné beaucoup de ses discours, des articles à cette revue de témoins, mais aussi, par exemple, il a proposé en tant que correspondant ou en tant que membre de rédaction des projets intéressants qui sont aussi dans le livre. Par exemple, il a proposé à Jean-Paul Samson de publier le texte de Simone Veil, une lettre ouverte à Bernanos, où elle raconte ce qu'elle a vécu en tant que musicienne pendant la révolution en Espagne. Et ça, c'était publié à la une d'un numéro de témoins, et ça a déclenché un vif débat, parfois à l'encontre, parfois en faveur de l'Église de Constitution de Simone Veil, qui a, dans cette lettre-là, aussi critiqué les miliciens libertaires dans la Révolution espagnole d'avoir commis des atrocités, des exécutions arbitraires. Et à mon avis, Camus a donné, a proposé de publier cette lettre aussi pendant son travail, de publier les crises politiques et historiques de Simone Veil. Mais à mon avis, cette départ sur deux, trois numéros de témoins montre aussi bien une capacité, une volonté aussi des libertaires pour une autocritique et une autocritique aussi de sorte volontaire. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre cette façon de parler, même d'une manière critique sur les problèmes qu'on a eus des propres côtés aussi des anarchistes. Ça, c'est une sacrée différence envers les, on peut dire, phases historiques de l'autocritique communiste qui ont ordonné à les militants. Maintenant, historiquement, on a une phase de l'autocritique, alors chaque militant doit faire son autocritique d'une manière prédonnée. Et puis après, on avance à une phase historique où chaque critique est interdite, on ne peut plus faire ça. Ça, c'était la différence. Je pense que cet débat montre bien la capacité d'avoir une autocritique aussi volontaire. Et ça, c'est aussi une qualité, je pense, de cette revue-là et de cette... Et d'ailleurs, il y avait beaucoup des militants libertaires qui sont étés en Espagne et qui sont étés aussi très importants dans les autres coins. Il y avait un échange des plumes aussi entre ces journaux que j'ai mentionnés. Il y avait des autres, par exemple, Gaston Leval, Louise Mercier, et des autres qui ont participé dans ce débat-là. Et le dernier courant dont je veux parler, oui, Camus a publié beaucoup d'articles aussi, c'est la revue La Révolution prolétarienne. Ça, c'était une revue, on peut dire, tout d'abord fondée par des marxistes, Pierre Monnat et André Rosner. Dans les années 90, ils appartenaient de certains temps à la partie communiste, puis ils sont un peu opposés à la bolchevisation du parti communiste dans les années 90, expulsés du parti communiste, mais ça c'était encore tout ça dans les années 90, et jusqu'à les années 50, où Camus a donné des articles dans cette revue-là. Cette revue est très ouverte et est devenue très ouverte et beaucoup de libertaires ont déjà écrit dans cette revue à côté des anciens comme Pierre Monnat, André Coudomo aussi, qui sont devenus de plus en plus ouverts envers les libertaires. Dans ce milieu-là, le milieu syndicaliste aussi, du syndicalisme révolutionnaire. Ce qui est intéressant dans les articles qu'on peut lire là, c'est tout d'abord il y en a quelques articles de Camus en soutenant les révoltes en Europe de l'Est. On a déjà parlé, un témoin aussi d'ailleurs. Mais je veux un peu concentrer sur les articles qu'on pourrait lire, notamment dans la Révolution prolétarienne, sur l'Algérie. Parce qu'il y avait une grande personnage indépendiste d'Algérie qui a écrit aussi, en même temps que Camus, pour la Révolution prolétarienne, et ça c'était Nessali Hadj. Nessali Hadj, c'était un militant syndicaliste qui a revendiqué l'indépendance pour l'Algérie déjà dès 1927. Et c'était le premier militant syndicaliste algérien à revendiquer l'indépendance. Et Camus a une histoire d'amitié avec Nessali Hadj, et ça revient des années 30. Des années 30, Camus était, parce qu'il était grandi en Algérie, dans un quartier pauvre des Français en Algérie,